France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui se passe dans le 12e arrondissement de Paris et qui part d'un rapport publié le 9 avril 2025 par la défenseure des droits Claire Hédon. Le rapport est intitulé « Amende, éviction, contrôle, la gestion des indésirables » entre guillemets par la police en région parisienne. Et il est réalisé par deux chercheuses, Aline Dallière et Magda Boutros du Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. L'étude décrit des pratiques policières dans ce quartier qui visent à évincer certaines populations de l'espace public, des jeunes donc jugés indésirables, autrement dit des jeunes racisés. L'étude raconte comment ça marche. Eh bien, ça marche à l'aide de contrôles d'identité à répétition et de multiples verbalisations pour de petites infractions. Pour réaliser leur enquête, je précise que les chercheuses se sont appuyées sur une enquête elle-même de l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN, dans le 12e arrondissement de Paris, sur 44 entretiens avec des jeunes multiverbalisés. Et elles ont aussi analysé un échantillon de plus de 1200 amendes forfaitaires dans ce même quartier. Aujourd'hui donc, dans les pieds sur terre, on essaie donc de comprendre ce qui s'est passé entre les jeunes et la police, avec deux jeunes verbalisés. Et on se demande si ça pourrait aussi se passer ailleurs. Reportage, Rémi Dibowski-Douat.
Je m'appelle Imad, j'ai 23 ans. Je vis dans un foyer avec trois personnes, dont ma mère et ma sœur. Ma mère travaille dans la restauration et mon père, il est plus là malheureusement. Comme je suis l'homme de la famille, je dois aussi gérer les factures, gérer la situation. Et franchement, avec l'argent, c'est pas très facile, quoi. C'est-à-dire que j'ai un salaire déjà d'alternant pour faire des études d'éducateur et je gagne entre 1300 et 1500, quoi. Mais ce qui est plus dur, c'est de payer les factures. Parce que des fois, elles peuvent grimper et franchement, c'est un truc qui est plutôt difficile. Je peux pas pleinement profiter de ma vie. Des fois, à la fin du mois, je peux me restreindre à faire des activités ou quoi que ce soit, quoi. Je trouve d'autres moyens de pouvoir faire, par exemple, des activités. Donc, en traînant avec mes amis, par exemple, ça peut soulager un moyen de reconnaissance, un moyen de satisfaction, quoi. On est entre jeunes, on s'est tous connus en primaire ou au collège. On a commencé notre vie ensemble, quoi. Pour nous, on est pratiquement comme une famille, on se connaît depuis tout petit. Et le fait de sortir, ça nous procure une certaine liberté aussi. On sait qu'on dérange personne, on est entre nous. On peut discuter, on peut rigoler entre nous et partager des bons moments, quoi, ensemble. Quand j'ai commencé à avoir l'âge de 13 ans, c'est là que les policiers ils ont commencé à venir et à nous mettre des amendes. La première fois que j'ai eu un PV, c'était avec mes amis. On sortait du foot. Et quand on est sorti, on a vu les policiers. Donc on a eu un contrôle de police. Ils nous ont mis sur le côté, ils nous ont fouillé. Il y avait un peu de tension parce que les policiers ils voulaient pas faire leur travail normalement. Et ensuite, il y avait des crachats, il y avait des déchets par terre. Et là, de là, les policiers nous mettent des amendes comme ça. Ils nous disent que vous avez craché, on va vous mettre une amende. Alors que on n'avait rien à voir avec ça, on sortait juste du foot. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, c'est là que j'ai vu que j'avais deux amendes. J'avais une pour les crachats insalubres et une pour les déchets. 60 € pour les deux, donc on va dire 120 €. Donc c'est de là que j'ai essayé de les contester. Mais malgré mes contestations aussi, c'était plutôt difficile. Ensuite, ça a continué parce que moi, j'étais toujours au quartier. Enfin, je sortais pour profiter, quoi. Mais ça s'est toujours pas arrêté, quoi. En fait, c'est toujours les mêmes motifs, on va dire. Pour les crachats, pour les déchets, des urines de personnes qu'ils ont fait alors qu'on n'était même pas là à ce moment-là. Des fois, ils vont devoir, en train de fumer, jeter un mégot, ils vont venir. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Par exemple, même des rébellions, ils peuvent te mettre en garde à vue pour ça. Alors que t'as rien fait, t'as pas parlé, mais juste, ils aiment pas ta tête. Ils essayent de te chauffer, de te monter pour que t'aies une garde à vue gratuite, quoi. C'est une satisfaction pour eux, je dirais. Une année, je pouvais recevoir au moins plus de 20 amendes. Je les comptais même plus. Carrément, j'essayais même plus de les regarder parce que ça me faisait mal. Et Jusqu'à cause de ça, j'ai commencé à travailler à 15 ans en tant que livreur au bloc, ce que je devais même pas faire, mais j'étais obligé de le faire. Parce que ma mère pouvait pas payer toutes mes amendes et j'étais obligé de me débrouiller par rapport à tout ça. Donc j'ai commencé à travailler dans la livraison. Je me suis fait un peu d'argent, j'ai essayé de rembourser un peu des amendes, un peu donner à ma mère et subvenir à mes besoins, quoi. Là, franchement, ça m'a beaucoup handicapé. À cause de ça, j'ai dû même lâcher l'école parce que l'école, c'était un truc où je me sentais pas trop à l'aise, mais au moins je le faisais parce que je savais qu'il fallait le faire, mais j'avais plus trop le temps. Je voulais faire plus d'heures pour avoir plus d'argent aussi, du coup. Donc les amendes, elles m'ont beaucoup empêché de dormir. Je me remettais souvent en question. Je me disais qu'est-ce que je devrais faire parce que j'étais un peu perdu, quoi, par rapport à tout ça. Avec mes amis aussi, on parlait de ça. Ils avaient aussi la même chose que moi, et donc on se voyait, on essayait de régler les problèmes. On partait voir les associations, les éducateurs de quartier, qui nous aidaient à faire les démarches. Pour certaines amendes, elles ont pu aboutir, mais pas pour tous. À la maison, ça pouvait créer des tensions. Ma mère qui ne comprenait pas, elle me disait que c'était de ma faute, mais elle ne voyait pas la chose qui était derrière, quoi. Elle me disait de plus sortir, de rien faire. Et je l'écoutais par rapport à ça parce que je voulais pas lui mettre plus de charge à son dos, quoi. Mais au fil du temps, elle a parlé avec les autres maires, elle a vu les policiers, elle a même eu des conflits avec la police. Donc elle a vu la vraie chose. Et de là, elle m'a plus compris, mais c'est vrai que c'était difficile au début, quoi. Parce que j'avais peur de sortir et peur de voir certains policiers, quoi. Donc on essaie d'esquiver des endroits où on sait qu'il n'y aura que nous. On essaie de se mettre dans des endroits, par exemple, publics, où il y aura d'autres personnes pour témoigner ou pour voir ce que les policiers font. À vivre au quotidien, c'est pas normal, quoi. Je vois que c'est plus par rapport aux faciès, par exemple, quand c'est des hommes noirs ou des hommes arabes, je vois qu'il y a plus de facilité à mettre des amendes aussi. Bah, franchement, je porte ma couleur de peau et franchement, j'en suis fier, mais je pourrais même le décrire comme un handicap, quoi. Parce qu'on ne peut pas marcher sereinement, on ne peut rien faire du tout, quoi. Par exemple, même les contrôles, j'en ai beaucoup à répétition. Par exemple, j'ai même fait une garde à vue il n'y a pas longtemps à cause de ça, quoi. On m'a confondu avec quelqu'un. Ils ont ramené la victime m'a dit que c'était moi alors que j'avais rien à voir dans l'histoire. Donc, ils se sont fait auditionner, ils ont vu que ça ne concordait pas où j'étais parce que j'étais chez moi à ce moment-là. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le commissariat du 12e, ils avaient presque tous la même mentalité, quoi. Se satisfaire du malheur de jeunes, c'est pas une chose qui est normale, quoi. Moi, quand j'étais petit, la police, je la voyais comme des héros. Et c'est un métier qui m'intéressait, quoi, parce que je me voyais des policiers, j'étais en extase, quoi, par rapport à eux. Je me disais, waouh, ils font un beau métier, ils sont forts, ils sont grands. J'aimais même bien la police, mais maintenant, ils font de l'abus de pouvoir et... Normalement, ils devaient être plus sociables, plus en lien avec les personnes. Parce que normalement, c'est les forces de l'ordre, quoi. Franchement, ça m'a vraiment donné envie de déménager dans un autre pays ou même dans une autre ville. Parce que j'ai eu la chance d'un peu voyager, quoi, on va dire, avec des associations ou des projets. Ce pays, je l'aime bien, mais... J'aime pas le système qui est autour de la globalité, quoi, on va dire. Par exemple, sur les policiers, sur les forces de l'ordre, sur même le gouvernement. Franchement, j'ai vu dans d'autres pays, par exemple la Belgique que j'ai fait, c'était un pays qui était plutôt libre, plutôt mieux. Et même là-bas, j'ai échangé avec des policiers qui étaient de là-bas. On avait plutôt des bons échanges, on était plutôt cordial et on s'entendait bien, quoi. Ça m'a ouvert les yeux par rapport aux policiers d'ici, quoi. C'était vraiment pas la même chose. Ici, tu peux même pas leur parler, tu peux rien leur dire du tout. Ils vont se sentir offensés, quoi, et ils vont rejeter leur haine sur toi, quoi. Je suis quelqu'un, j'aime pas la violence du tout. Franchement, quand je voyais des gens se battre, j'essaie toujours de séparer. Franchement, c'est des trucs que jamais je cautionnerais, quoi, peut-être. Parce que moi, j'étais un ado plutôt calme, discret. J'aimais être avec mes amis, profiter de la vie, quoi. J'étais beaucoup en rapport avec les associations qui m'ont, par exemple, procuré des voyages, procuré de la plus de sociabilité aussi par rapport à ça. Franchement, ça m'a ouvert l'esprit et j'étais normal, quoi. Donc moi, au final, au bout de 10 ans, je dois 10 000 euros. Et jusqu'à ce moment-là, je ne sais même pas comment les payer et comment ça va se passer. Et c'est un truc qui me prend la tête, qui me donne du mal à dormir. Et qui m'a donné envie de moins traîner au quartier, de moins être là, quoi. Mais franchement, ça a gâché ma vie, quoi, on va le dire. Je fais actuellement mes études en tant qu'éducateur. Je suis actuellement dans ma dernière année et justement, c'est toute cette vie-là qui m'a donné envie de transmettre mon savoir-être et mon savoir-faire par rapport à tout ça. Par exemple, quand je vois des jeunes du quartier, j'essaie de même leur parler, leur expliquer comment faire par rapport aux policiers, comment réagir, comment prendre sur soi, pouvoir les aider dans leur vie aussi, quoi. Parce que franchement, j'ai connu ce truc-là de pas se savoir compris et d'être victime de ce système, quoi, on va dire.
Je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans, je travaille actuellement dans les assurances. Je suis issu d'une famille nombreuse et là où j'habitais, bah, c'était très petit. Il y avait une chambre et un salon, on était 8. La télé en général, elle était prise. Je suis d'origine arabe, donc mes parents regardaient les chaînes arabes à la télé. Moi, je comprends pas trop l'arabe, donc je voyais pas l'intérêt pour moi de rester à la maison. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de console de jeu. Mes parents n'avaient pas les fonds pour m'acheter ce genre de choses, donc tout ce que j'avais, c'était un ballon de foot que j'avais acheté à 10€, et c'était mon seul jouet. Donc je sortais avec mon ballon de foot, et je jouais dans le parc. Mais vous savez, quand vous allez à l'école, vous finissez à 16h30, le parc ferme à 18h. Donc après, on reprenait le ballon et on jouait sur la dalle, vu qu'il n'y avait personne sur la dalle, elle était énorme, on pouvait faire des matchs de foot. Et on restait jusqu'à 20, 21h, puis on rentrait chez nous. Et en fait, à ce moment-là, la police aimait bien passer pour nous embêter. À chaque fois, ils venaient, ils faisaient en sorte qu'on partait, etc., qu'on reste pas sur cette dalle. Et une fois, on était assis, et j'avais un vélo que j'avais acheté à Go Sport. Et la police vient me voir, elle me dit ton vélo, tu l'as volé où? Je dis, je l'ai pas volé, il a été acheté. Elle me dit, t'as le ticket de caisse? Je dis, non, je l'ai pas, mais si on appelle ma mère, vous allez voir, le vélo, il a été acheté. Bah écoute, tu vas aller au commissariat parce que t'as volé un vélo. Je suis allé au commissariat. Ils ont pris une heure ou deux heures pour appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Du coup, mes parents s'inquiétaient. Et ils disaient à mes parents que j'étais un bandit, qu'ils faisaient ça par rapport à des enquêtes, etc. Du coup, ma mère, elle est venue, mais elle n'avait pas le ticket de caisse. Du coup, ils m'ont dit, bah, si vous n'avez pas le ticket de caisse, il va aller en garde à vue. Parce qu'il y a eu des vols de vélo et que pour nous, le vélo a été volé. Donc ma mère, elle a fait quoi? Elle est allée à sa banque, elle a demandé un relevé de compte. Et elle a sorti la preuve de l'achat sur GoSport. De comme quoi le vélo était acheté, avec la date, etc. Je suis ressorti avec mon vélo comme ça et ça a commencé comme ça. À chaque fois que j'allais sur cette dalle ou dans un parc tranquillement, bah, j'avais des problèmes, que ce soit moi ou des amis. Je suis peut-être allé 10 fois au commissariat pour vérification d'identité alors qu'ils savaient très bien comment je m'appelais, où j'habitais. Il n'y avait pas de motif. Donc au final, moi je pensais que c'était leur boulot en fait d'embêter les Arabes et les Noirs. Puis après, il y a eu l'association Soleil avec Mohamed Aknouch, c'était un éducateur spécialisé qui en faisait des sorties à Barcelone, etc. pour les jeunes. Un jour, il vient sur cette dalle-là et il vient parce qu'on avait une activité ce jour-là. Et au moment où il vient, la police arrive. Sauf qu'il ne savait pas que Mohamed Aknouch était un éducateur spécialisé parce qu'il était habillé comme un civil. Et à ce moment-là, il nous contrôle. Et le contrôle, il est un peu musclé, ils mettent des doigts au niveau des fesses. Donc ils cherchaient du cannabis tout en mettant des doigts au niveau des fesses. Mais de manière assez appuyée, hein, ça, pendant 4-5 fois. Et du coup, nous, on disait, mais qu'est-ce que vous faites, hein, c'est dégueulasse, etc. Et le policier, il nous a insultés, a mis un coup de poing à mon ami. Du coup, l'éducateur était choqué de ce qui se passait. Et dès que la police est partie, il a dit, est-ce que ça arrive souvent? Donc là, à ce moment-là, on a dit, bah oui, ça arrive tous les jours. Et il nous a fait comprendre que c'était pas normal. Donc à partir de ce moment-là, mes parents ont décidé de porter plainte. Il y a eu une plainte, on était entre 15 et 18 et dans l'enquête, etc., parce qu'on allait à l'IGPN, la police des polices, on a vu qu'il y avait un classeur où il y avait tous nos dossiers. Et notre surnom, c'était les Indésirables. Pour moi, les Indésirables, c'est en gros, on n'a pas notre place ici. On a les papiers français, on est né en France, on a travaillé en France, on paye nos impôts en France. Mais vu qu'il y a des origines, bah, concrètement, on est des indésirables par rapport à notre couleur de peau. Et bah, dès que l'IGPN a saisi ça, bah, ils ont dit que c'était très grave. Et ce qui est bien, c'est que pendant l'enquête, l'IGPN a eu l'idée de mettre une caméra au niveau des costumes des policiers avec un micro. Ce qui nous a permis de gagner, hein, parce que malheureusement pour la police, tout était filmé et tout était écouté. Donc bah, à partir de cette première élément de preuve, ça nous a permis de prouver quelques faits. Donc il faut savoir que la police aimait bien nous frapper dans des parcs ou dans des endroits où il n'y avait pas de caméra. Ils nous frappaient jamais sous les caméras, etc. Ou quand ils nous contrôlaient devant des caméras, ils nous prenaient dans la voiture et ils nous garaient ailleurs pour nous frapper. Donc lorsqu'il y a eu le jugement, bah, y a des personnes de la plainte qui travaillaient, donc qui n'étaient pas entre guillemets des voyous comme la police le disait. Et ça aussi, ça a eu du poids parce qu'ils se sont dit, en fait, ils généralisaient tout le monde. Il y avait des personnes qui faisaient des bêtises, mais d'autres qui n'en faisaient pas. L'État a mis en cause la police. J'ai été dédommagé par l'État, 2000 euros. Donc au final, bah, la police a arrêté les violences avec nous. Donc là, c'était la première grande victoire. Et en fait, suite à ça, ils ont utilisé les amendes. Alors la première fois, je me rappelle très bien, je descendais la rue de Rueil. J'étais avec une fille et la police monte la rue de Rueil. C'était une voiture Kangoo et ils ouvraient la porte. Et en roulant, ils me disaient « Bon alors, on te frappe devant ta copine ou pas ?» Et moi, je dis « Bah non, moi j'ai rien fait, etc. » en rigolant. Ils me disaient « Ah, ça te fait rire ?» Du coup, ils descendent. Et ma copine, elle me dit « Mais pourquoi ils viennent te voir, etc. ?» Je dis « Bah tu sais, faut pas les calculer, ils font toujours ça. Mais là, ils peuvent plus me frapper parce qu'il y a une plainte. » Ils me disent « Bah écoute, ça t'a fait rire, on va te mettre une amende de 30 euros pour crachat. » Du coup, j'ai une amende de 30 euros pour crachat, je la paye pas. L'amende, elle est majorée. Et ça, c'était la première amende. Et la fille aussi a une amende pour crachat. Ça a commencé comme ça. Et après, j'ai eu plein d'amendes pour crachat, tapage nocturne. Là, c'était des amendes piétons. Donc, c'était du jamais vu. Des fois, j'ai eu des amendes... J'étais en vacances, j'étais dans mon pays d'origine. Et j'ai reçu des amendes. Parce qu'ils ont vu quelqu'un au loin, ils se sont dit que c'était moi. Donc ces amendes-là, j'ai pu les justifier puisque j'avais le billet d'avion, comme quoi j'étais à l'étranger, donc je n'ai pas eu à les payer. Mais on a d'autres où j'étais vraiment là et j'ai pas pu me défendre. Donc du coup, j'ai eu pas mal d'amendes. Et j'avais un scooter, donc sur le scooter, ils aimaient bien me mettre des amendes alors que je ne l'utilisais pas, mais ils connaissaient la plaque. Et du coup, bah, dès qu'ils ont vu que j'avais un scooter, ils s'amusaient là-dessus. Ils me mettaient que j'ai pas mis un clignotant alors que je roulais pas avec. Du coup, moi, j'ai vendu le scooter parce que pendant un an, j'ai eu plein d'amendes par rapport à ce scooter-là. À un moment, il y avait une grosse période comme ça. Après, j'ai commencé mes études, mon bac plus 2. Du coup, à ce moment-là, j'allais moins dans le quartier parce que j'avais déménagé déjà et je devais absolument avoir mon diplôme. Donc, je me concentrais sur mes études. Et j'avais des petits stages, etc. Donc, je percevais un petit peu d'argent et à chaque fois, bah, l'État piochait dedans. Du coup, j'étais obligé de vider mon compte à chaque fois que j'avais un... Même si c'était un salaire de 500 euros ou la bourse ou peu importe, je devais vider mon compte. Du coup, mon compte bancaire était toujours à zéro ou à découvert pour pas que l'État prenne sur mon compte. À ce moment-là, nous, on était jeunes, donc on s'est dit « Ok, c'est des amendes, on va pas les payer ». Donc peut-être au total, les amendes, ça montait à 3000 euros, mais avec la majoration, ça remonte facile à 8000. Et 90% de ces amendes-là, j'y suis pour rien. Donc, mais quand on rentre dans le monde du travail, et bah, c'est là qu'on voit le danger, parce qu'on voit que ça va être pris sur nos comptes et que ça va vraiment nous pénaliser. Et ça a été un gros sujet dans mon quartier, parce que bah, moi, j'avais plus de 8000 euros d'amende majorée. Quand j'ai commencé à travailler, du coup, mes premières payes, bah, l'État se servait sur mes comptes pour payer les amendes. J'ai des amis qui avaient plus de 30 000, 40 000 euros d'amende. Du coup, ils pouvaient pas travailler parce qu'ils se sont dit « Je vais pas travailler pour l'État, pour des amendes que je suis pas à l'origine. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent travailler au black parce qu'ils veulent pas payer leurs amendes. Ils sont fichus parce qu'ils vont payer toute leur vie. Et il y a des plus jeunes qui ont rien à voir avec cette histoire parce qu'ils ont peut-être 8 ans de moins que moi. Ils ont pas eu de violence policière, mais ils ont que des amendes. Mais en fait, le problème pour les jeunes qui ont suivi après, c'est qu'ils ont eu des amendes dès 13 ans. Donc là, ils ont à peu près 20 ans. Bah, j'ai des jeunes qui sont à peine majeurs, qui ont 30-40 000 euros d'amende et c'est les parents qui doivent payer. Des parents en dépression parce qu'ils doivent payer des amendes pour leurs jeunes. Ils savent pas quoi faire. Bon, après aussi, je devais passer mon master et je voulais être bon en anglais. Parce que je devais passer le TOEIC et il fallait absolument avoir une bonne note en anglais. Du coup, je suis allé 6 mois à Londres. Et pendant ces jours-là à Londres, je me suis dit, bah, je vais vivre à Londres. Je vais faire ma vie à Londres et je serai pas un indésirable là-bas. J'en connais qu'ils ont quitté la France par rapport à ça et je trouve ça bête parce que c'est notre pays, on a grandi en France, on aime la France, on veut rester en France et bah, je trouve ça dommage. Donc, j'ai fait mon master en France, je pensais que j'allais partir à Londres après mon master et lors des alternances, j'ai eu l'opportunité de travailler dans les assurances. Donc voilà, j'ai trouvé le boulot que je voulais avec le salaire que je voulais, donc je me plais bien là-dedans. Et moi, à la base, je veux rester en France, je suis français, j'aime la France et ça m'embête d'aller ailleurs. Mais bon, malheureusement, je vais devoir faire avec et payer mes amendes toute ma vie. Moi, à l'heure actuelle, je paye 100 euros par mois parce que je travaille. Je préfère en finir avec tout ça, comme ça, je réduis un maximum mes charges. Je compte acheter un appartement et j'ai demandé une remise gracieuse pour passer à 3000 euros pour au moins payer les amendes à leur prix d'origine. Bah, ça fait un an que je suis en attente. Donc voilà. J'ai des projets, donc être propriétaire, monter ma boîte plus tard et fonder une famille, etc. Moi, mon but, c'est de réussir dans ma vie. Je pense que je vivrai loin de cet endroit-là parce que même si je suis attaché à mon quartier d'enfance, je veux pas que mes enfants aient cette vie-là. Et j'aimerais bien que ça s'arrête pour les générations à venir et que les plus jeunes n'ont pas à vivre ce qu'on a vécu. Je croise les doigts pour que ça cesse pour tout le monde et si ma parole peut avoir un impact, que ça peut faire changer des choses, bah, je continuerai le combat.
Je m'appelle Théophile Barbu, j'habite dans le 12e arrondissement de Paris et je suis membre de la Ligue des droits de l'homme. En 2015, un ami qui était écrivain public au centre social Relais 59 m'a proposé de le remplacer en tant qu'écrivain public au centre social, ce que j'ai accepté. Et en tant qu'écrivain public, j'ai pris connaissance que certains jeunes habitants des mineurs de 12, 13, 14 ans faisaient l'objet de verbalisations très importantes. L'un des jeunes avait reçu 11 amendes au cours de 4 contrôles qui représentaient une dette d'amende de 2 524 euros pour des foyers qui vivent avec des ressources très modestes. Donc ça représente des montants impossibles à payer en fait. On a un jeune de 14 ans qui avait reçu 5 contraventions au cours d'un même contrôle. J'ai le cas, par exemple, de jeunes qui étaient entre deux halls d'immeubles. Les policiers arrivent et ils me disent « il y a des papiers par terre, là, c'est pas propre ». Donc les jeunes ramassent les papiers. Ils font « attendez, on va tout ramasser ». Ils ramassent tout, mais ils reçoivent quand même les contraventions. Il y avait également des mamans qui venaient à la permanence pour m'expliquer. J'avais une maman qui me disait « j'ai payé 500 euros de dette d'amende pour mon fils aîné ». Le mois dernier, j'ai à nouveau 500 euros de dette d'amende environ pour mon second fils que j'ai payé. Et puis il y a encore des amendes, là je ne peux plus payer. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'elles s'inquiétaient de la charge que représenterait cette dette plus tard pour eux. Donc pour elles, il fallait absolument payer cette dette. Donc à ce moment-là, on fait des demandes de remise gracieuse. Autant les contestations marchent très mal, voire pas du tout. Il faut vraiment avoir un motif extrêmement sûr, sinon c'est parole contre parole. Donc ça marche pas. Par contre, les demandes de remise gracieuse à la trésorerie, ça c'est quelque chose qui fonctionne, on va dire. La trésorerie accorde des remises gracieuses, mais rarement sur la totalité de la dette, et accorde également des états d'amende de dette. Fin 2015, on apprend que 18 jeunes mineurs ont déposé une plainte collective, ce qui est une première en France, contre une brigade de policiers du 12e arrondissement. Lors des tables rondes qu'on a organisées à la suite de la plainte, on a compris que dans le 12e arrondissement, on a une nouvelle population qui est arrivée, intéressée par des coûts immobiliers plus faibles que dans d'autres quartiers de Paris. Cette nouvelle population, très différente de celle qui occupe les logements sociaux, eh bien, elle ne comprend pas du tout ces modes de vie des jeunes qui sont en bas des immeubles et qui se retrouvent en bas de chez eux pour boire une canette, écouter de la musique, jouer au football. Et comme certains habitants ne tolèrent pas ce bruit en bas de chez eux, bah ils appellent la police. On va même dire qu'ils harcèlent la police, ils harcèlent aussi les élus, pour que la police mette fin à ces nuisances. Donc les policiers sont menacés par les habitants qui leur disent « Mais si vous n'intervenez pas, nous on va se plaindre à l'IGPN, la police des polices. » Donc voilà, bah, ils y vont parce que ça met une pression sur le commissariat et les élus qui est considérable. Ce que nous disent les jeunes, ils disent bah, les stades, les salles de sport, elles sont bondées, il n'y a pas de créneau ou alors c'est payant. Aller en terrasse des cafés, c'est trop cher. Donc nous, on est en bas de chez nous. Eh bien, c'est les verbalisations qui vont intervenir de plus en plus nombreuses, systématiques, et qui constituent une forme de réponse de la puissance publique, sachant que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un défaut de service public, à la fois un défaut de logements sociaux, un défaut de salles de sport, de créneaux dans les salles de sport, un défaut également de moyens pour la prévention de la jeunesse, pour la médiation, pour les loisirs. Et donc tous ces problèmes qui relèvent finalement des services publics et qui sont en manque dans ces quartiers populaires, tous ces problèmes finalement n'étant pas résolus, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la police.
C'était des jeunes très verbalisés, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Je précise que le préfet de police de Paris a qualifié le rapport des deux chercheuses de rapport à charge dénué de fondement scientifique. Nous avons également contacté la préfecture pour avoir leur version des faits concrets. Leur communiqué de presse complet est sur notre site, mais en substance, il explique que ces contrôles ont été faits dans le cadre de dispositions légales en vigueur et parfois à la demande des habitants, des commerçants ou des riverains. À bon entendeur. Merci pour cette émission à Mohamed, à Knouch, à Jonathan et à Imad. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. You're okay.